Place publique.
À l'heure où tout se fait par Internet, les pannes informatiques prennent vite de l'ampleur. On l'a vu cette semaine avec PostFinance ou encore les CFF. Ne plus pouvoir faire ses paiements, acheter son billet de train ou faire sa déclaration d'impôt, sommes-nous devenus plus vulnérables avec les cyberservices? C'est une question qu'on va se poser dans un instant. Le 12 février, nous voterons sur la réforme fiscale des entreprises, troisième du nom, la RIE3, doit permettre à la Suisse de rester compétitive en abaissant sensiblement les impôts sur les bénéfices des entreprises, tout en supprimant les cadeaux fiscaux. De quoi faire peur à certaines collectivités publiques qui toucheront moins d'argent. La ville de Bienne craint le pire. Son maire, Eric Fer, nous rejoint dans un instant. Enfin, nous prendrons de la hauteur grâce au solaire et à la volonté d'un homme, un éco-explorateur. Le Neuchâtelois Raphaël Donjon nous dira tout sur son défi du moment, Solar Stratos, un projet visant à tutoyer l'espace pour étudier en avion solaire la stratosphère. Et l'un de ces trois sujets a inspiré notre chroniqueuse pleine d'humour, Céline Favre. Une surprise à découvrir tout à l'heure.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. Le tout virtuel, une tendance inéluctable, censée nous faciliter la vie au quotidien. Sauf que, quand ça tombe en panne, les conséquences peuvent prendre des proportions massives. Deux exemples cette semaine pour s'en rendre compte. À PostFinance, tout d'abord, impossible pour 1 700 000 utilisateurs de faire leur paiement en ligne entre dimanche et lundi. Autre exemple avec les CFF, c'était mardi matin. Impossible d'acheter un billet autrement qu'auprès du contrôleur dans le train. La panne concernait les smartphones, mais aussi les automates. Sommes-nous devenus trop vulnérables à force de dépendre d'Internet? Faut-il regretter les bons vieux guichets de proximité qui ferment les uns après les autres? On en parle avec vous, Mathieu Lachat. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le chef du service de l'informatique du canton du Jura. Alors, un mot de votre part sur ces pannes spectaculaires. Elles ne durent pas longtemps, mais prennent tout de suite des dimensions considérables.
Tout d'abord, ça souligne le fait que le risque zéro n'existe pas. Dans tous les systèmes informatiques, même les mieux conçus, le risque est toujours présent. Et c'est vrai que l'impact de l'informatique est beaucoup plus large et important qu'un guichet physique, hein, où moins de personnes vont y accéder. Un guichet virtuel, on parle tout de suite de centaines de milliers de personnes qui peuvent y accéder de manière simultanée. Donc l'impact est beaucoup plus fort, mais des problèmes de ce type-là vont encore se répercuter. C'est à voir jusqu'à quel niveau on sera capable d'investir pour éviter ce genre de problème.
On a l'impression malgré tout que c'est un enjeu majeur pour PostFinance ou les CFF. Comment expliquer que leur système soit pareillement entravé? N'ont-ils pas les moyens d'éviter des pannes généralisées?
Alors les moyens, ils les ont, mais je le répète, une panne, elle peut être très très large. Ça peut être l'accès Internet qui pose problème, ça peut être le guichet lui-même, ça peut être l'applicatif derrière qui fonctionne finalement, qui rend la prestation, qui pose problème, les bases de données. Donc la chaîne est extrêmement, extrêmement longue et complexe, donc on ne peut pas que dire finalement l'accès Internet, le guichet est redondé, a été installé de manière sûre. Il y a tout l'aspect données qui est également à traiter derrière. Donc c'est pour ça que pour les personnes qui ne connaissent pas tellement la technologie, on peut croire que bon, on investit le minimum pour que ça fonctionne. Mais d'ailleurs, je peux vous dire que c'est des 10 millions qui sont investis, mais le risque zéro, je le répète, n'existe pas. Et ce genre de coupure risque de se répercuter ces prochaines années.
Si vous êtes avec nous, eh bien c'est parce qu'à l'instar d'autres cantons, le canton du Jura développe une cyber-administration avec notamment le développement d'un guichet virtuel, un guichet qui était inaccessible hier entre 8h et 10h du matin pour des travaux. En tout cas, c'est ce qui était indiqué sur le site internet, des travaux pour éviter des pannes, rassurez-nous.
Oui, c'est exactement ça. Ces guichets doivent évoluer, c'est des applicatifs, il faut les mettre à jour. Non, si possible, c'est clair que ces travaux de maintenance, on les effectue pendant la nuit. Quelquefois, quand les prestataires ne sont pas disponibles, on est obligé de les effectuer durant la journée, mais il y a eu des annonces qui ont été réalisées, donc on a quand même informé nos utilisateurs principaux, principalement, je dirais, les entreprises, que ce service serait malheureusement pas accessible durant cette période.
Alors, plusieurs prestations sont possibles, hein, notamment pour ces acomptes d'impôts, fixer un rendez-vous d'expertise pour son véhicule, ou bien encore demander un permis pour la chasse et la pêche. Est-ce que parmi ces prestations, est-ce que certaines ne sont disponibles que sur Internet?
C'est une volonté. Je crois qu'il y a une volonté aussi de développer l'axe numérique, hein, la volonté de pouvoir amener plus de transactions en ligne. C'est une demande surtout du citoyen. Je crois qu'on ne développe pas quelque chose qui ne correspond pas aux attentes des citoyens. On le voit avec les CFF, on le voit dans tous les domaines, le e-banking principalement, les gens veulent accéder en ligne en tout temps sur certaines informations et pouvoir faire des transactions avec leur administration ou les banques. Dans ce cadre-là, oui, il y a une volonté de développer, mais je ne crois pas que c'est complètement annulé la prestation sur un guichet. On pourra permettre de désengorger les guichets physiques pour permettre justement un meilleur service de qualité aux citoyens. Donc ça ne va pas totalement remplacer les guichets physiques, il ne faut pas avoir peur de ça, mais tout simplement, ça nous permettra sur les guichets physiques de rendre une meilleure prestation.
Alors on a parlé de bugs assez magistraux pour des ex-régies fédérales. Vous avez dit le risque zéro n'existe pas. Est-ce que pour une collectivité comme le canton du Jura, est-ce que vous êtes sous pression? Est-ce que vous avez les moyens de faire face à ces bugs, voire même à des piratages, hein, c'est assez tendance en ce moment. Quels moyens vous mettez en place?
Alors déjà, premièrement, le gouvernement a pris conscience de l'intérêt du numérique. Hein, il l'a très bien souligné dans son programme de législature gouvernementale pour ces 5 prochaines années, avec l'axe numérique et l'importance qu'il prend dans la société actuelle. Pour ça, c'est vrai que des moyens nous ont été octroyés, des moyens plus importants, mais c'est vrai que les éléments de risque, et puis je dirais plus l'évolution sera grande en termes de prestations en ligne, plus on devra amener des discussions là autour sur la perte d'activité, les conséquences en termes d'image, en termes de perte d'argent, qui amèneront effectivement des investissements supplémentaires. À l'heure actuelle, on est bien soutenu par notre politique, mais c'est vrai que ces prochaines années, avec l'évolution, les investissements devront être plus importants.
Techniquement, c'est des serveurs en plus, on double les accès au réseau pour éviter que s'il y a un tombe en panne, l'autre puisse prendre le relais. Ça prend quelle forme, ces précautions?
C'est exactement ça, donc c'est toute la chaîne finalement qui permet de rendre la prestation, qui doit être résiliente. On parle de l'accès déjà à Internet, après on parlera des salles machines, qui doivent être aussi redondantes en termes électriques. On parlera des applicatifs, des serveurs aussi qui doivent être disposés sur plusieurs sites. Donc c'est un niveau de service avec lequel on va s'entendre sur avec le politique, le gouvernement et aussi les clients de dire qu'est-ce que vous acceptez finalement comme panne. La panne, elle doit être discutée. On ne peut pas dire je vous assure une panne de 0 minute par année, c'est garanti. On doit dire qu'est-ce qu'on est prêt à accepter. Et d'après ce qu'on est prêt à accepter, les investissements sont frais en conséquence. Si vous parlez de 4 heures maximum de coupure par année, ou si vous êtes prêt à accepter 3 à 4 jours de coupure, il va de soi que les investissements en termes de technologie seront totalement différents.
En tout cas, il y a un enjeu en ce moment, hein, c'est les impôts. Je l'ai dit, sur ce guichet virtuel, il y a possibilité de, par exemple, modifier ses acomptes. C'est très important, j'imagine, de fidéliser vos administrés à ce guichet virtuel. On a l'impression que la panne arriverait au plus mauvais moment si elle arrivait ces prochaines semaines. Je ne veux pas vous porter la poisse.
Non, alors j'espère en tout cas pas. C'est vrai qu'il y a eu l'annonce dernièrement donc des adaptations et puis surtout des améliorations que le service des contributions propose à la population. Le guichet en fait partie, on améliore le canal de communication entre le citoyen et puis les services, le service des contributions ici qui est concerné. Et c'est vrai qu'on a des périodes un peu plus chaudes que d'autres. La période actuelle qui va s'étaler jusqu'à mars-avril va être une période extrêmement chaude. On ne peut pas se permettre effectivement qu'il y ait une coupure et que le citoyen ne puisse pas télécharger sa déclaration fiscale. Un client qui ne pourra pas télécharger, c'est, comme on le dit souvent, c'est malheureusement un client perdu, un citoyen qui va repasser au papier. Donc effectivement, on a mis en œuvre des systèmes et puis surtout, on a des équipes qui seront là de piquer pour assurer un service de qualité.
Alors la population jurassienne, c'est plus de 70 000 habitants, plus de 71 000 habitants. Bientôt 5 ans après l'ouverture de ce nouveau guichet virtuel qui fonctionne actuellement, combien d'utilisateurs ont recours à l'administration sur Internet?
Alors on a pu le mesurer vis-à-vis du nombre de SUSID, qui est la solution qui permet d'accéder de manière sécurisée au guichet virtuel, on est environ à 5 000 utilisateurs. C'est encore faible puisqu'on vise beaucoup plus ces prochaines années. Le système SUSID va être adapté, va être simplifié ces prochaines semaines, une communication va être faite. Mais surtout, je dirais, on mesure au nombre de transactions. C'est là-dessus, c'est pas au nombre de personnes connectées, puisqu'avec l'administration, vous allez faire beaucoup moins de connexions que vous allez faire avec votre e-banking, pour autant que vous payez vos factures tous les mois. Mais on le mesure au nombre de transactions. Et à l'heure actuelle, on évolue d'environ 30 à 40% le nombre de transactions supplémentaires chaque année. Cette année, on est quasi à 300 000 transactions qui ont été effectuées par ce guichet. Donc c'est 300 000 téléphones en moins, 300 000 emails en moins. Donc ça allège véritablement l'activité de l'administration.
Mathieu Lachat, merci beaucoup de nous avoir expliqué en quoi consiste cette cyberadministration jurassienne. Avec 300 000 transactions, on le retient ce chiffre, 300 000 transactions l'année dernière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et évidemment, on vous tient les pouces pour qu'il y ait le moins de pannes possible. Bonne
merci
soirée.
Merci beaucoup, bonne soirée, bon week-end.
Place publique.
Et il est temps de s'informer avec vous, Yann Esler.
Un record d'amnistie fiscale à Neuchâtel dans le canton. Les chiffres ont littéralement explosé. Le service des contributions a enregistré 929 dénonciations spontanées l'an dernier contre 300 en 2015. C'est un record. Il estime récupérer 32,5 millions de francs soustraits à l'impôt. Le Jura, lui, ne possède plus d'amnistie depuis décembre 2014. Un petit chien a dû être euthanasié après avoir été traîné lundi par un véhicule sur environ 1 km dans les Franches-Montagnes. Son propriétaire avait démarré sans se rendre compte qu'il avait sauté du véhicule et que sa laisse s'était coincé dans la portière. Le ministère public jurassien saisit le tribunal fédéral dans l'affaire de l'accident de Montvoix. La procureure a déposé un recours hier suite au verdict rendu en deuxième instance en novembre. L'homme avait écopé de 36 mois de prison, dont 24 avec sursis pour 4 ans. La procureure maintient ainsi ses réquisitions et demande 8 ans de prison ferme pour le chauffeur. Ce dernier avait causé la mort de deux de ses passagers dans un accident entre Montvoix et Villars en avril 2014. Le procès de Fabrice A, le meurtrier d'Adeline, devra reprendre de zéro. La chambre pénale de recours genevoise a récusé les magistrats du tribunal criminel chargé de juger cette affaire. Elle estime qu'ils ont donné l'apparence d'un parti pris en ordonnant une troisième expertise de l'accusé lors des débats en octobre. La nouvelle loi sur les jeux d'argent ne doit pas permettre le blocage de sites étrangers en ligne non autorisés en Suisse. Pour la majorité, prévoir le blocage de sites de jeux étrangers serait disproportionné et trop facile à contourner. Le Conseil national traitera le sujet lors de la session de printemps. En ski alpin, grosse surprise à Wengen, le Zurichois Nils Hintermann s'est imposé lors de l'épreuve de combiné. Il devance le Français Maxence Musaton et l'Autrichien Frédéric Berthold. Parmi les autres Suisses, Nils Manis s'est classé à la 5e place et Justin Murizier a terminé 7e. Pour ce qui est de la météo, demain, le temps sera très nuageux avec de la neige. Les températures seront froides à toutes les altitudes. Elles iront de moins 4 à 1 degré au maximum.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
C'est l'un des enjeux des prochaines votations fédérales de ce dimanche 12 février, la troisième réforme fiscale des entreprises. Il s'agit en deux mots de supprimer les régimes de faveur pour certaines entreprises afin de se conformer aux normes de la communauté internationale. Le but, rester attractif pour maintenir des emplois et attirer des entreprises étrangères. La réforme permet malgré tout des déductions en matière d'innovation, mais aussi un taux attractif pour toutes les PME. Problème, les collectivités publiques prévoient d'importantes baisses fiscales. Bienne, par exemple, perdrait 15 millions de francs par année, un chiffre articulé hier en conférence de presse. Et c'est ce chiffre qui vous inquiète fortement, Éric Fer. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Devecq.
Vous êtes le maire de Bienne. Alors, il s'agit d'une réforme ambitieuse qui va encourager l'innovation, c'est ce que disent ses partisans, et maintenir une économie attractive. Est-ce que ce n'est pas un pari incontournable et nécessaire pour une ville comme Bienne, qui abrite un nombre important d'entreprises ?
Je pense pas que c'est la bonne solution pour maintenir la compétitivité et la force de l'innovation, car cette forme de baisse fiscale, sans compensation correcte en faveur des villes, surtout sans compensation correcte en faveur des villes où il y a des industries productives comme à Bienne, ça met en péril l'attractivité des sites, tout en général, tant pour l'économie que pour la population, et nous pensons qu'effectivement, c'est pas la bonne voie à suivre.
Malgré tout, je répète ma question, alors que l'horlogerie et toutes les entreprises affiliées qui cherchent un nouveau souffle sont à Bienne, n'est-ce pas une réforme nécessaire, sachant qu'elle est censée aussi favoriser l'innovation et donc créer, on imagine, de la prospérité, de l'emploi ?
Je n'ai jamais entendu de la part de ces entreprises que c'est cette RIE 3 qui serait l'enjeu décisif pour eux. J'entends toujours que des bonnes conditions cadres, comme la sécurité, la stabilité politique ou encore la main-d'œuvre qualifiée, sont bien plus importants. Et je vous signale quand même que ce que les gens fédéraux ont décidé, c'est pas un soutien à l'économie, c'est des subventions dans le sens qu'on peut déduire plus 50% de plus de frais pour la recherche et le développement que les frais effectivement dépensés, de même avec les intérêts fictifs.
Je vous propose, Éric Fer, d'écouter désormais l'avis de l'avocat et expert fiscal diplômé chez Omnitax à Bienne, Étienne Junot. Pour lui, la RE3 va certes poser un défi aux finances publiques, mais c'est selon lui un mal nécessaire.
Alors, Bienne, évidemment, est un exemple typique des communes qui perdront. dans la mesure où les retraits fiscaux de la commune proviennent à très haut niveau des personnes morales. Je rappelle que dans une année normale, la ville de Bienne encaisse facilement 25% de ses retraits fiscaux en provenance des personnes morales. Et il faut aussi admettre qu'il n'y a pas véritablement de rentrées fiscales qui proviennent de sociétés ayant un statut fiscal spécial. Donc avec une baisse du taux, les rentrées seront en forte diminution. Et à ce moment-là, évidemment, une ville comme Bienne a deux possibilités. Soit elle augmente la quotité communale, ce qui peut être très dangereux dans la comparaison intercommunale avec notamment les communes voisines. Ou alors on peut évidemment envisager une diminution drastique des dépenses, mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à mettre en œuvre. Et il pourrait aussi peut-être y avoir pendant une certaine période transitoire des règles de péréquation à l'intérieur du canton de Berne qui permettraient de soutenir des villes ou des communes qui seraient dans la situation de Bienne.
Vous qui travaillez à Bienne, qu'est-ce qui vous motive malgré tout à voter en faveur de cette réforme ? Là, vous êtes en train de donner raison à tous ceux qui veulent voter non ?
Alors on entend très souvent les opposants parler des désavantages, notamment d'autres financiers de cette réforme, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il faut profiter de la nécessité de changer la fiscalité sous la pression de l'Union européenne pour introduire des solutions novatrices qui permettent aussi de soutenir la recherche et le développement avec très probablement un maintien des contribuables qui bénéficiaient précédemment de statuts fiscaux spéciaux. Ensuite, c'est une formidable opportunité de renforcer la recherche et le développement, qui est quand même un des capitaux les plus importants en Suisse. Et cette réforme permettra aussi, même si c'est toujours très difficile à quantifier, à créer des places de travail attractives. Alors c'est un risque, oui, mais c'est parier sur un avenir positif pour la Suisse et se rappeler quelque part aussi l'esprit novateur de nos ancêtres lorsqu'ils ont mis en place l'État fédéral.
C'est un mal nécessaire, si je résume. Ça va faire mal, mais ce sera nécessaire à plus long terme.
C'est quelque chose de nécessaire sans que ce soit un mal, c'est un effort, mais qui à moyen et à long terme, je le crois, permettra de dynamiser notre pays.
Éric Fer, une réaction à ce que vous venez d'entendre ?
Alors, mon ami Étienne Julan vient de décrire exactement et de manière très très objective les avantages et les risques de cette réforme. Et il a aussi dit, et c'est un reproche vraiment fort que je fais là à la directrice des finances du canton de Berne, jamais il y a eu des garanties comment les villes particulièrement touchées par un changement de statut qui finalement a à avoir affaire avec des sociétés du type comme elles sont quasiment pas implantées à Bienne, jamais ce canton de Berne, jamais cette directrice des finances a fait approuver déjà de manière fiable des compensations. Voilà pourquoi nous devons combattre cet RIE3.
Est-ce que c'est une raison pour condamner cette réforme qui se joue quand même au niveau suisse ? Tout le monde n'a pas à y perdre. Est-ce que la balle n'est finalement pas dans le camp du canton de Berne quand cette loi sera appliquée pour trouver des nouveaux mécanismes de redistribution et puis pour permettre à Bienne aussi de s'y retrouver ?
Ma confiance dans la directrice des finances du canton de Berne est fortement rompue puisqu'elle a entre autres déjà vendu des rentrées supplémentaires comme compensation avec une augmentation de la valeur locative et de la valeur officielle, chose qui déjà a été contestée une fois au Parlement par les partis de droite, donc c'est pas sûr que ça passe, c'est un pari dans le vide si vous voulez, et en même temps il y a eu de la droite une attaque sur la taxe immobilière, une rentrée importante des villes, 10 millions pour la ville de Bienne. La directrice des finances du canton n'a pas défendu les communes sur ce sujet-là. Voilà pourquoi nous avons de grands doutes d'être compensés correctement par ce canton de Berne.
Nécessité de réforme, malgré tout, il y a, Éric Fer, il faut se mettre en conformité avec la communauté internationale. On l'a dit, la Suisse est mal vue à cause de ces cadeaux fiscaux. Finalement, qu'est-ce qui vous empêche précisément de dire oui à cette réforme ? Puisque réforme, il doit y avoir.
Je viens de le dire déjà, une compensation totalement insuffisante et surtout non garantie, contrairement par exemple dans le canton de Vaud, où il y a eu une solution trouvée entre les conseillers d'État Brulis et Maillard, qui a pu donner confiance aux communes et à la population vaudoise, et d'autre part, justement, des déductions fictives qui pour nous, le conseil municipal de la ville de Vienne, sont des subventions, je le répète, des intérêts fictifs et puis des frais pour la recherche et le développement qui ne sont pas des frais réels.
Mais l'Union suisse des villes n'a pas donné de consigne de vote. Encore une fois, toutes les villes ou cantons ne sont pas perdants. Au-delà des cas particuliers difficiles, dont celui de Vienne, est-ce que cette réforme n'est pas souhaitable ?
Elle est souhaitable dans le sens qu'il faut arrêter les régimes fiscaux contestés au niveau international. Ça, personne ne met en cause, mais ce n'était pas une raison pour introduire encore tous ces éléments supplémentaires qui n'ont rien à voir avec ça dans cette RIE 3, et ce n'était non plus pas une raison pour ne pas prévoir des compensations correctes.
Éric Fer, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous dans Place Publique pour nous donner votre opinion au sujet de cette réforme fiscale des entreprises, donc en votation le 12 juin. Je vous souhaite une bonne soirée, on vous dit à bientôt.
Merci, au revoir, monsieur Deheck.
Et il est temps de faire une petite pause musicale avant d'accueillir, on l'espère, notre prochain invité, Raphaël Donjean. Temps d'accueillir une nouvelle voix dans Place Publique. Bienvenue, Céline Favre. Vous rejoignez notre équipe de chroniqueurs humoristes. Vous êtes en l'occurrence une chroniqueuse.
Effectivement, je confirme.
Tant mieux. Céline.
Alors, Raphaël Donjean, Gabriel Devec, bonsoir. Bonsoir et bonne année.
Merci, bonne année, c'est vrai. Il faut commencer par le commencement.
Et on va continuer dans les souhaits parce que c'est votre anniversaire. Donc, bon anniversaire, Gabriel.
Merci beaucoup.
Alors, je ne chanterai pas pour des questions uniquement de temps et non esthétiques. Alors, je me suis quand même interrogée. C'est ma première chronique et c'est votre anniversaire. Est-ce que je ne serai pas un peu votre cadeau que vous faites à vous-même, un peu votre petit cadeau perso ?
Sans aucun doute, Céline. Et un cadeau aussi qu'on fait aux auditeurs.
Donc, bonsoir et bonne année. Je suis ravie d'être si bien entourée pour débuter cette nouvelle année. Raphaël Donjean est beau, et même très beau. On a les invités qu'on mérite. Alors, en ce début d'année, les souhaits sont de circonstance. On se souhaite tous parmi plein de choses, du bonheur, la santé, l'amour, etc. Mais on se souhaite tout ça un peu comme lorsqu'on croise une vague connaissance à qui l'on dit « Salut, ça va ?» Dans le fond, on se fout un peu de la réponse. Mais avec vous, Raphaël Donjean, c'est différent. Ben oui, en vous souhaitant une bonne année, je sais déjà qu'elle sera belle et je sais déjà, à l'inverse de moi, que vous allez vous envoyer en l'air. Et pas qu'un peu. 25 000 mètres, bon sang, ça sera probablement l'orgasme le plus haut du monde. Vous allez nous faire un record, vous visez la stratosphère. Donc 5 heures de préliminaire pour 15 minutes d'extase durant lesquelles vous pourrez admirer la rotondité de la Terre. À chacun ses fantasmes. Alors, pour vous situer un peu, Raphaël Donjean, vous êtes à côté de moi, mais vous êtes surtout un éco-explorateur. Mince, éco-explorateur, ça le fait, moi ça me plaît. Surtout dans un monde où nous tendons davantage à l'éco-centrisme qu'à l'écologie. Vous n'en êtes pas à votre premier exploit, vous êtes beau déjà. Est-ce que je l'ai déjà dit ?
Oui, vous l'avez dit, mais apparemment ça ressemble fort à une déclaration.
Vous avez fait le tour de la Terre avec votre bateau Planète Solaire, dont les moteurs électriques étaient alimentés par des cellules photovoltaïques. Et de cellules photovoltaïques à cellulite, il n'y a qu'un ou deux foie gras. Je me propose donc de vous suggérer, une idée. J'ai moi aussi l'âme d'une aventurière, un peu comme vous. Donc, après l'aviation solaire et électrique, place à l'aviation qui utiliserait comme seule énergie le gras. Je mets donc gracieusement à votre disposition ma cellulite et celle de mes copines que je salue au passage. Certaines auront la possibilité d'être bien plus généreuses que moi. Alors cette idée, c'est cadeau, je vous en prie de rien. Pour l'aspect technique, voyons-nous dans l'année, cette fameuse belle année qui vous sourit déjà outrageusement. Cher Raphaël, je vous dis bon vent, bon vol au vent. Je voulais la placer. Et peut-être qu'on pourra se faire un resto après l'émission si vous êtes partant.
Place publique. Eh bien voilà, une proposition. Raphaël, vous êtes partant, vous allez au resto avec Céline Favre ?
Mais avec grand plaisir, mais je crois qu'on se connaît, Céline, il me semble.
Si, absolument.
D'accord.
Alors, une réaction à ce mot de Céline Favre. On parle beaucoup de solaire, d'autres formes d'énergie renouvelable vous intéressent ? Par exemple la cellulite ou d'autres ?
Alors la cellulite, c'est une idée qui a déjà été utilisée d'ailleurs par un Néo-Zélandais qui s'appelle Pete Bethune, qui a fait un tour du monde avec un bateau qui marche 100% à la biomasse, donc à des biocarburants. Il avait utilisé son ventre, en l'occurrence, vu que c'était un monsieur, nous c'est là que ça s'accumule, pour faire un peu de biocarburant pour son bateau qui a fait le tour du monde.
Eh bien, on n'a pas fini d'innover. Vous voyez, on est en retard d'une guerre, Céline. Alors, vous êtes avec nous, Raphaël Donjean, car cette année s'annonce cruciale pour votre dernier projet en date, Solar Stratos, soit l'exploration de la stratosphère en avion solaire biplace. Vous volerez jusqu'à 20 000 mètres, 25 000, on a entendu, jusqu'à combien d'altitude ?
Alors notre idée, le record absolu qu'on aimerait battre, c'est aller au-delà de tout ce que les avions ont fait jusqu'à aujourd'hui. Donc à part les ballons et les fusées, on serait l'avion qui a volé le plus haut dans l'histoire de l'aéronautique. Et là, il faut monter au moins à 25 000 mètres si on veut réussir ce pari. Mais ça, ce sera en 2018. Pour cette année, c'est les premiers vols, je dirais à basse altitude, et jusqu'à, on espère, atteindre au moins 10 000 mètres cette année pour battre le record actuel de Bertrand Piccard en avion solaire, qui est de 9 420 mètres.
Alors, à des conditions proches, on imagine, de ce que vivent les astronautes, le grand public a pu découvrir dans les médias au mois de décembre votre avion. À l'inverse de Solar Impulse, il ressemble bien plus, j'ai envie de dire, à un grand planeur ou à un avion traditionnel qu'on aurait déjà vu, contrairement à cette espèce d'ovni de Solar Impulse qu'ont utilisé Piccard et Borschberg. En tout cas, pour ce qui est du look, mais si on regarde de plus près, c'est vraiment un concentré ou ce devra être un concentré de technologie.
Alors je dirais qu'effectivement, Solar Stratos, un avion qui est basé sur un avion qui existe, un avion qui s'appelle Electra One, un avion solaire monoplace qui existe, et tout simplement on l'a poussé à la limite, c'est un avion biplace qui a pu emporter aussi un passager, et on va le pousser à la limite de ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais c'est un avion qu'un jour tout le monde pourra acquérir, pas Solar Stratos, mais un avion similaire que tout le monde pourra acquérir un jour pour, par exemple, faire de l'écolage ou des vols de plaisance.
Quel enseignement, on parlait de Solar Impulse, vous tirez de ce tour du monde réalisé par notamment Bertrand Piccard. Qu'est-ce que cette aventure vous apporte en termes techniques, en termes de savoir ou humain ?
Eh ben, indirectement, on travaille avec l'équipe du CSEM, par exemple, qui a développé le système solaire de Solar Impulse. Et aujourd'hui, eh ben, cette équipe travaille pour Solar Stratos. Et ça veut dire que, bien sûr, on a un retour d'expérience, de savoir-faire extrêmement important qui nous permet aujourd'hui de développer Solar Stratos.
Alors, vous faites un pas de plus. Hein. Vous l'avez dit, on veut aller plus haut avec la technologie solaire en tutoyant l'espace. Quelles raisons vous ont poussé à investir votre énergie dans ce défi aérien ? Et à partir de quand vous vous direz, j'ai eu raison de le faire ? Tiens, ça a servi à quelque chose.
Alors, c'est des convictions. Et j'espère que tout ce qu'on réalise, tout ce qu'on essaie de réaliser, participe modestement à une prise de conscience, à une démonstration de ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce aux énergies renouvelables. On n'est jamais certain d'avoir eu raison. Ça, je pense que je ne serai plus là le jour où c'est quand le monde sera durable. Donc, on reste convaincu de ce qu'on fait, c'est quelque chose d'utile.
Mais il y a quand même des objectifs très concrets.
On a des objectifs qui sont très concrets, mais ça reste l'écologie expérimentale et de démonstration. Ça reste quelque chose d'extrêmement subjectif parce qu'on ne peut pas mesurer vraiment les effets que nos projets peuvent avoir. Donc ça reste très subjectif et il faut rester relativement modeste par rapport à leurs effets.
Vous avez parlé de premiers vols entre 16 et 20 000 mètres d'altitude cette année, en 2017. Qu'est-ce qui reste avant de pouvoir vraiment saisir le manche à balai, si ce n'est toujours un manche à balai dont on parle, pour s'envoyer en l'air ?
Alors, c'est 10 000 mètres d'altitude pour cette année, et l'année prochaine, ce sera justement d'aller au-delà, et ça implique de pouvoir voler en commission spatiale. 10 000 mètres
cette année, alors.
Cette année, à peu près 10 000 mètres, donc sans commission spatiale, et dès 2018, en commission spatiale, et là, ça implique d'être capable de voler en commission spatiale, et à des altitudes qui sont très élevées, où c'est qu'en plus, le moins de problèmes sur la commission spatiale, principalement de pressurisation, ça équivaut à la mort quasiment immédiate, donc là, il y a d'autres étapes à franchir, ça nous demande un petit peu de travail, et surtout, on rentre dans une zone que personne ne connaît, personne n'a jamais fait ce genre de choses auparavant. Donc ça demande un petit peu de préparation et de concentration.
Pour se dire éco-aventurier, éco-explorateur, justement, est-ce qu'il faut marquer les esprits en allant là où personne n'est encore allé ? Il faut innover, voire même risquer sa vie. Ça fait partie des conditions types pour pouvoir se dire aventurier.
Alors, je dirais que si vous faites une aventure ou de l'exploration, surtout l'aventure, et qu'il n'y a plus aucun risque, ce n'est plus vraiment une aventure. Mais je dirais que ce n'est pas la condition la plus importante. Dans l'exploration, ce qui est important, c'est d'explorer des domaines qui n'ont pas été faits auparavant. Ce n'est pas forcément en faisant des vols en avion solaire. Ça peut être en science, ça peut être dans beaucoup de domaines, que ce soit géographique, que ce soit dans l'histoire, dans l'archéologie. Il y a beaucoup de choses qui ont un lien avec l'exploration aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je crois que ce qui est assez incroyable, c'est de voir que les explorateurs du 21e siècle sont de retour, non pas pour aller plus loin, non pas pour découvrir de nouveaux territoires, mais plutôt pour montrer ce qu'on peut réaliser aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies et grâce aux énergies renouvelables.
Vous voyagez à travers le monde, il n'y a qu'à se souvenir de Planète Solar, mais même dans le cadre de cette aventure, vous voyagez toujours. D'ailleurs, quand on vous appelle, vous êtes toujours très loin. Vous étiez au Chili récemment, vous étiez au milieu de l'océan un autre jour. Est-ce que cette activité, tout le monde peut le faire ? Aux enfants qui nous écoutent, par exemple, et que vous faites rêver, qui peuvent encore y croire, qu'est-ce que vous leur dites pour un jour, s'ils ont envie, devenir éco-explorateurs ? Quelle est la recette ?
Mais je leur dirais qu'aujourd'hui, on est dans un monde avec beaucoup d'incertitudes, mais de grands changements. Et lorsqu'il y a des grands changements, ça veut dire qu'il y a des grandes opportunités pour rêver. Et puis qu'il faut toujours croire en ses rêves. Il ne faut jamais écouter les gens qui vous disent que c'est impossible. Et qu'il y a, c'est une chance, ce qui nous attend, de changer le monde. Et que le monde de demain sera l'image de notre sagesse et de notre audace d'aujourd'hui.
Voilà pour la philosophie, pour les plus rationnels ou les plus ambitieux, les plus pragmatiques. Il faut faire quelle formation ? Il faut faire quoi dans la vie pour un jour devenir Raphaël Donjon ?
Alors, je leur déconseillerais de venir un jour Raphaël Donjon. J'ai une formation qui est très atypique et pas du tout scolaire.
Vous travaillez dans le domaine des urgences ?
J'ai été ambulancier, je suis plus aujourd'hui, mais j'avais commencé comme mécanicien. Non, je dirais surtout ce qui est important dans la vie, c'est d'écouter son cœur. Il y a une citation d'Albert Einstein que j'aime beaucoup qui a dit « Lorsque j'ai écouté mon cœur, je me suis souvent trompé, mais lorsque je ne l'ai pas écouté, je me suis toujours trompé. » Et c'est ce qui guide mes pas. Alors, je conseillerais plutôt d'écouter cette citation d'Albert Einstein.
Il faut être un homme de cœur, un homme de conviction pour oser aller là où personne n'est encore allé. Ça, on l'a bien compris. Mais il faut aussi du savoir-faire, il faut aussi un certain d'entre gens pour convaincre des investisseurs, j'imagine. Il y a toute une palette de capacités que vous avez dû développer tout le long de ces années pour devenir crédible et pour réaliser des authentiques exploits qui sont d'ailleurs relevés ou mentionnés dans la presse internationale.
Oui, mais je crois que tout ça va se nourrir de quelque chose de très essentiel, qui est de faire les choses avec son cœur, avec honnêteté et sincérité. Et ça, c'est la base de tout. Après, je pense que si on est honnête, on est sincère, on fait les choses avec son cœur, on utilise notre savoir-faire. Je pense que c'est à la portée de tout le monde de réaliser des projets extraordinaires.
Prochaine étape, Raphaël Donjean, de cette aventure Solar Stratos, c'est laquelle et c'est quand ?
Février-mars, premier vol de l'avion solaire, premier vol de Solar Stratos à Payerne. Et puis, j'espère au mois d'avril pouvoir faire moi-même les premiers vols. Les premiers vols, ce seront le pilote d'essai. Et puis, de pouvoir imaginer faire des vols d'altitude dès cet automne, dès l'automne 2017.
Raphaël Donjean, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler de votre projet en cours. Pour les auditeurs qui souhaitent en savoir plus, bien sûr, on les renvoie à votre site internet solarstratos.com et toute la presse en parle, donc ce sera pas du tout compliqué sur internet de s'informer. Et bien entendu, nous suivrons avec beaucoup d'intérêt votre aventure comme toutes les précédentes. Merci, bonne soirée, bon week-end.
Merci à vous, merci à tout le monde.
Place publique.
Et Place publique, eh bien c'est tout pour ce soir. On remercie Yannick pour la réalisation. On remercie aussi Céline, chroniqueuse, pour sa première dans Place publique. Et si vous voulez retrouver l'intégralité de l'émission, eh bien c'est très facile. Il suffit tout à l'heure de venir sur nos sites internet, que ce soit RJB, RTN, RFJ.ch ou en podcast sur vos applications. On se dit à la semaine prochaine. Salut.
Place publique.